Eh bien, surprise, surprise, n'est-ce pas ? D'habitude, c'est l'émission Divergence Numérique. Aujourd'hui, c'est Ma Culture sur ta commande. Bonjour les gars.
Bonjour salut. Gérard, salut Vincent. Une émission concoctée par la rédaction de Divergence FM où vous aurez pendant une petite heure des reportages, des sons de l'année ici et là pour vous informer de l'actualité culturelle de Montpellier et de sa région et de son agglomération, disons, ne soyons pas trop prétentieux.
Mais oui, je crois que tu as tout dit, Simon. Parfait, une émission pilote, comme on dit.
Une émission pilote et surtout divergente, puisqu'on va traiter de la culture à la fois avec un petit C, et nous on y mettra un grand C, puisqu'on parlera d'expo, on parlera de musique classique, on parlera d'opéra comique, on parlera de danse, on parlera de tout, quoi.
Et justement, commençons assez rapidement, parce que le sommaire, en fait, vous allez le découvrir, chers auditeurs, en direct, comme ça. On va commencer par une exposition qui se tient près des Arceaux, une exposition dont le vernissage la semaine dernière a réuni plus d'une centaine de personnes. Il était dur de se frayer un chemin et de tendre un micro, mais nous avons eu un reporter, Christian Coste, qui l'a fait. Gloire à lui. Une exposition qui regroupe Al Sticking, Small et Salamek qui, pendant 9 mois, ont préparé une exposition pour retourner une villa qu'ils ont rebaptisée Street House. Une villa de 170 mètres carrés, une véritable collaboration artistique faite avec l'architecte François Fontes. On va l'écouter, Christian Coste, en interview durant ce vernissage et nous, on se retrouvera juste après.
On est à l'Expo Parcours. C'est un concept d'exposition tout nouveau. On a investi une maison de 170 mètres carrés. Qui nous a été aimablement mise à disposition par François Fontes, un architecte bien connu sur Montpellier. Et on a investi les lieux, on a fait une saturation totale de l'espace. On a créé un univers chronologique pièce par pièce qui raconte en fait l'histoire du graffeur moyen, c'est-à-dire le parcours que peut avoir un street artist ou un graffeur. Ça part de l'école où on apprend l'écriture. Et puis après, on a les influences de la télévision, des dessins animés, des BD qui viennent colorer nos productions, agrémenter notre art. Et puis après, on part sur la rue, on part sur les trains, les toits, le métro. Tous ces univers-là sont représentés dans chacune des pièces du pavillon. Et donc, l'expo commence ce soir. On reçoit beaucoup de monde là autour de nous, c'est l'effervescence totale. On est ouvert jusqu'au 6 janvier 2013 et on fait des visites guidées le mercredi et le samedi et pendant toutes les vacances scolaires. Voilà, donc il suffit juste d'envoyer un petit mail, regarder le blog et puis on accueille tout le monde, l'entrée est libre et on attend énormément de monde.
Tout ça est beau et gratuit.
Tout ça est beau et gratuit. Comme l'art qui se trouve dans la rue en fait. Donc on ne l'impose pas au public, mais on le donne à voir. C'est-à-dire que, bien sûr que l'entrée est gratuite, je ne vois pas pourquoi elle serait payante d'ailleurs. Et par contre, on vend un petit catalogue qui raconte toute l'exposition. Un livre de 72 pages avec des photos inédites, avec tout un texte qui donne vraiment des clés par rapport à la chronologie du projet. Et voilà, donc... venez nombreux, nous on vous accueille à bras ouverts.
Oui, tout le monde te salue. C'est vrai qu'il y a du monde sur cette exposition, enfin sur ce vernissage aujourd'hui. Ouais,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde là. Il y a des gens que je connais, il y a des gens de tous âges. Et,
oui, là, des enfants.
Ça fait chaud au cœur. Les enfants s'y retrouveront, je pense, avec les couleurs, les univers colorés. Et puis de toute façon, nous, on est des grands enfants. Hein. On grandit plus. Dans nos productions... on en est encore à mettre des schtroumpfs et des panthères roses, donc pas de problème. Quoi.
Et janvier, après, qu'est-ce qui se passe ? On démolit tout ?
Alors, à la base, normalement, la maison devait être rasée, détruite, pour un projet immobilier. Vu le succès de l'exposition, cette décision n'est pas encore fermée et peut-être que le lieu deviendra un centre d'art urbain, on ne sait pas. En tout cas, voilà, on le garde jusqu'au 6 janvier. Et puis après, on verra ce qui se passe. En tout cas, nous, c'est de l'art éphémère. Donc même si c'est détruit, c'est dans l'ordre naturel des choses.
Et les visites guidées, elles rappellent les jours ?
Les visites guidées, c'est le mercredi et samedi. Et après, c'est tous les jours.
À quelle heure ?
Les créneaux horaires, on les fera en fonction du monde qui viendra. Donc ce sera en fin de matinée, en début d'après-midi, jusqu'à 19h.
Et alors, comment on fait pour savoir ? On se connecte quelque part ?
Alors, il y a le blog de l'exposition. Le blog de l'exposition, c'est parcoursexpo.blogspot.com et il y a une adresse mail qui est expo.parcours@gmail.com. Sur cette adresse mail, on envoie un petit mail pour dire quel mercredi ou quel samedi on veut venir. Et nous, on vous répond pour le créneau horaire, tout simplement.
Alors toi, tu es l'un des trois protagonistes.
Oui, 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 tout à fait.
Et ton pseudo, c'est...
Moi, c'est Salamèche.
Salamèche.
Ouais.
Voilà. Il y a Small et Al.
Il y a Small et il y a Al, lui, qui est plus spécialisé dans le street art, dans le collage, pour être précis.
On a vu ses réalisations dans la ville à Montpellier,
voilà,
certains endroits.
On est encore présent dans la ville de Montpellier, bien sûr, hein, sur les murs, sur les toits, partout où on peut s'exprimer, hein, on a pas de préférence.
Alors attention, le street art veut devenir institutionnel avec une expo qui a autant de succès.
C'est le risque. C'est le risque. Alors moi, j'aime beaucoup dire que...
Tu vas devenir un bobo.
J'espère pas. Le risque, c'est de dire que c'est encore du graffiti. Pour moi, c'est plus du graffiti à ce niveau-là. C'est un espace qui s'ouvre à notre art et on l'ouvre aux gens pour qu'ils aient une compréhension quelque part. Mais on peut plus appeler ça du graffiti en tant que tel parce que le vrai graffiti, il est dans la rue. Il est subversif, il est illégal entre guillemets, même si c'est un bien grand mot. Mais la pratique du graffiti, elle a tellement de formes et tellement d'évolution que je pense qu'elle a sa place aussi dans les galeries ou dans des expos in situ comme ici. Et on est encore en train de faire évoluer les choses et puis voilà, qu'on va dans le bon sens, je pense.
Heureux.
Ah, très heureux. Ah oui, oui, nous on est très très satisfaits, très très heureux. Très content de pouvoir montrer tout ça aux gens.
Alstin King, Small et Salamèche, une exposition intitulée Parcours à voir. De rue Marcel Serre, c'est près des Arceaux et on le rappelle, ils l'ont dit pendant l'interview, les horaires pour visiter cette exposition, c'est sur le site internet parcoursexpo.blogspot.fr. Alors je sais pas, moi je ne l'ai pas vu personnellement, qui l'a vu ici ?
Eh bien moi j'étais présent au vernissage, alors effectivement quand tu parles de 100 personnes, je pense qu'il y en avait au moins 200, à tel point qu'il y avait carrément un vigile qui faisait un peu la jonction entre ceux qui rentraient dans la maison et ceux qui en sortaient. Alors du coup j'ai pas tout vu parce que je suis devenu quasiment claustro. Il y avait tellement de gens qu'effectivement, des fois, je me retrouvais bloqué dans une pièce. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette expo, pour ce que j'ai vu, c'est d'avoir thématisé un peu les pièces. Il y a des pièces, c'est la salle d'enfant, une autre pièce, c'est une salle de classe, une autre pièce, c'est une prison, une cellule. C'est là où je me suis retrouvé piégé d'ailleurs, enfin pendant un petit moment.
Super.
Après il y a la cave aussi qui est il y a la cave qui est investie. Et puis bon, ce qui est intéressant, c'est de voir trois visions différentes parce qu'ils ont chacun leur style. Et puis il y en a partout. Voilà, il y en a partout, on en a plein les yeux. Et je pense qu'on peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, contrairement à une peinture abstraite contemporaine. On peut prendre beaucoup, beaucoup de temps pour visiter cette expo.
Une exposition à voir, si j'ai bien compris, jusqu'à fin décembre. Du coup, c'est vrai qu'en 9 mois de préparation, à mon avis, ils ont dû pas mal bosser. Et comme je le rappelle, un catalogue de 72 pages est mis à disposition et l'entrée est libre et gratuite à cette exposition. À quoi pensons-nous maintenant, cher Gilles ?
Eh bien, moi je vais intervenir parce qu'il me semble qu'on a aussi un événement important qui aura lieu ce soir au théâtre Jean Villard, et c'est donc la présence du chanteur Dominique A, pour lequel Gilles est allé faire donc une interview du responsable du théâtre Jean Villard, monsieur Jean-François Guiret.
Eh bien, nous sommes au téléphone avec Jean-François Guiret. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Alors on est là parce que ce soir, concert-événement, on peut dire ça comme ça, la présence de Dominique A sur la scène du théâtre Jean Villard, pour fêter, comme les éditions Six Pieds Sous Terre, c'est 20 ans en quelque sorte.
Oui, tout à fait, c'est vraiment un temps fort de la programmation, même si on a commencé avec deux temps forts aussi, puisqu'il s'agissait de création, c'était plus sur le registre théâtre. Là, c'est le premier concert de la saison, et pas moins que Dominique A, qui fête ses 20 ans de carrière, en effet, cette année. Le 9e album qui s'appelle donc Vers les Lueurs, et c'est cet album-là qu'il viendra présenter. Mais il rajoutera aussi à son répertoire, ce qu'il donnera donc ce soir au théâtre, des titres phares de ses albums précédents.
Une carrière qui est saluée, on va dire, par tout le monde. On le nomme l'inventeur du lyrisme minimal.
Et puis c'est aussi le fer de lance. C'est vrai que je ne sais pas s'il aime beaucoup quand on dit ça, mais être le chef de file d'un renouveau de la chanson. Mais en tout cas, c'est avec lui que, quand il a commencé à faire un album chez lui, sur un 4-pistes. Et ça a été un peu la porte ouverte aussi à la créativité libre et ouverte, comme si tout était possible.
Un concert qui fait suite en fait à une résidence pour ses 20 ans.
Oui, exactement. Il a peaufiné donc tous ses titres lors d'une résidence dans l'Essonne, à Massy-Palaiseau. Et il a confié d'ailleurs les arrangements à son claviériste David Evert, qui l'accompagne depuis 7 ans maintenant, qui sera aussi sur le plateau avec lui. Il y aura également à la batterie Sébastien Buffet, à la basse électrique contrebasse Jeff Allam, également Thomas Poli à la guitare et au clavier. Voilà, ce qu'on peut dire peut-être sur la particularité de ce concert-là, c'est que dans l'album, il y a la présence, justement, Vers les lueurs est apportée par la présence d'un quintet à vent. Là, ça sera surtout un concert très très rock, très guitare-voix, très un rock évidemment toujours avec les mélodies, parce que les arrangements seront travaillés pour compenser l'absence du quintet qui est présent sur l'album, et il va trouver, j'imagine, des trésors de créativité pour trouver les lueurs suffisantes qu'apportera les guitares lors de cette tournée.
Un concert qui s'inscrit dans une saison où il y en a pas mal de concerts finalement au théâtre.
Une saison de concert, voilà, qui démarre fort avec Dominique 1, qui se clôturera en avril avec Barbara Carlotti, qui nous a fait un magnifique cadeau en sortant cet album, L'amour, l'argent, le vent, qui est sublime, qui viendra nous présenter. Et on passera également par une production plus locale avec un hommage à Georges Brassens. Et puis aussi, en collaboration avec le Festival 100%, nous recevrons Nef Chirlian, qui a fait des reprises, qui a eu accès à des textes inédits de Jacques Prévert, mais le Jacques Prévert qu'on connaît moins, pas le Jacques Prévert des écoles, mais celui plutôt l'insurgé, le politique, l'enragé. Voilà. Et donc, il a mis en musique ces textes-là. Il partagera, ça sera un co-plateau avec le slammer de Nîmois qui s'appelle Zob.
On retrouve évidemment toutes ces infos sur théâtrejeanvillard.montpellier.fr. Jean-François Guiret, merci beaucoup, et puis à très bientôt au prochain Café Babel.
Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir.
Fuir le courant, pointe nos caninos tournants, le souterrain pousse les murs, mainstream, mainstream, nous gagnerons tous le courant, puis nous disparaîtrons dedans, mainstream, l'art est un rêve. Éveillé, tous les matins on se lève, le courant passe à côté, mainstream, mainstream, nous gagnerons tous le courant, puis nous disparaîtrons dedans. Mainstream, à la hussarde de l'industrie, entre nos rêves, fais le tri, maquille les ongles et les écharpes. Parcours les tuyaux, le monde est une silhouette qui fait le show, le monde est une silhouette diluée dans les tuyaux, nous gagnerons tous le courant, disparaîtront dedans, nous gagnerons tous le courant, puis nous disparaîtrons dedans, mainstream.
Et un concert de Dominique A qui affiche complet, donc vous connaissez la recette, vous vous rendez au théâtre Jean Villard, vous traînez aux alentours en faisant psst, il n'y a pas une place à vendre au marché noir s'il vous plaît. Et peut-être que bah, y en a un qui se sera cassé la jambe ou dont la grand-mère sera malade ou qui aura piscine à ce moment-là, il avait oublié, et qui vous revendra gracieusement sa place à un prix défiant toute exorbitance.
Ah bah c'est bien, tu donnes l'espoir.
Tu donnes l'espoir mais tu ne donnes pas l'adresse de Villard.
Voilà, Villard, tout le monde sait où est le théâtre Jean Villard, à la Paillade, rue de Bologne, voilà. Arrêt de tram, halle de la Paillade.
Maison pour tous, Léo Lagrange.
Donc si c'est complet, eh bien c'est complet. Et peut-être que nos auditeurs ont peut-être un autre choix. Par conséquent, Vincent, toi, tu es plus, on va dire, branché sur la danse. Et oh bah, par conséquent...
Hein, mais autant dire que ce soir, je serai au concert de Dominica. Mais effectivement, je vais parler de la danse.
Je ne sais pas te le faire dire, mais c'est vrai. Et tu es donc allé interviewer tout simplement Nassera Belhaza, qui présente son programme en trois parties qui s'appelle Le Trait, et qui a donc lieu également ce soir.
Oui, c'est ce soir à l'Agora, au studio
Bagouet. Ce soir et demain soir.
Et ce soir et demain soir, effectivement. Donc ça s'appelle Le Trait, c'est une pièce en trois temps, avec un duo et puis deux solos, le cercle, le cœur et l'oubli. Alors Nassera, juste préciser, Nassera Belhaza, c'est pas une jeune première, hein, ça fait une quinzaine d'années déjà qu'elle réalise des chorégraphies. Elle est réputée pour une espèce de minimalisme, et puis pour une orchestration de la lumière un peu particulière. Elle travaille sur les noirs. Alors elle m'a dit dans l'interview, parce qu'il y a eu un entretien de 20 minutes, elle m'a dit qu'elle ne travaille pas exclusivement sur les noirs, mais il y avait aussi parfois de la pleine lumière. En tout cas, c'est vraiment une danse contemporaine particulière, et histoire de la découvrir, eh bien, j'ai sélectionné une partie de cet entretien. Alors on va écouter en même temps une des musiques qui a été choisie pour cette chorégraphie. C'est la musique de la bluesman Otella.
Nassera Belhaza. Il semblerait que je fasse de la chorégraphie. C'est vraiment le prolongement d'une recherche entêtée, obsessionnelle, de mener plus loin à chaque fois ce questionnement. Et à partir de là, il y a effectivement des contraintes que je m'impose qui font que ça a peut-être créé au fil du temps un univers. C'est que, effectivement, je m'autorise aucun artifice, aucun changement quasi même d'interprète, de plateau, de costume. Et l'enjeu pour moi, c'est comment je peux, en n'utilisant que le corps et le langage du corps, comment je peux avoir le sentiment de m'être déplacé, d'être allé un peu plus loin, de m'être posé d'autres questions, d'avoir effectué un voyage que je n'ai pas fait à travers les autres pièces. Donc c'est l'image que j'ai de moi, c'est vraiment, je sais qu'il y a un proverbe africain qu'on m'a dit une fois, mais d'être devant un caillou que je pousse depuis le début. Et je me tiens à cette démarche rectiligne, parce que j'ai vraiment le sentiment que moins je m'autorise de possibilités et d'interférences et d'artifices, etc., plus ça m'oblige à aller vers un chemin plus en profondeur. Un spectateur me disait hier après Le Trait, il me disait, quelle que soit la forme que prennent tes pièces, elles touchent à un endroit viscéral qui génère une émotion très particulière. Donc c'est plutôt une sorte d'antenne que j'ai qui fait que je trafique le son, la lumière, le corps pour aller toucher à cet endroit-là. Et une fois que j'ai cette dimension-là sur le plateau, moi, je me sens vivante en tant qu'être humain, et c'est absolument ça que je souhaite partager avec l'autre. Je ne veux pas lui montrer des chorégraphies et lui montrer l'habileté avec laquelle je sais faire des chorégraphies. Je ne veux pas lui montrer non plus la technicité d'un danseur sur un plateau. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est absolument réussir à créer ce lien invisible. Le mot est tellement galvaudé qu'il ne veut plus rien dire, mais de communion, en fait, d'esprit, de cœur, d'âme, de corps, entre protagoniste sur le plateau et le spectateur.
Alors, On va rester donc sur la forme que vous avez choisie, c'est un triptyque. Donc un duo, deux solos, un que vous interprétez et chorégraphiez, puis un autre qui est chorégraphié et interprété par votre sœur. Quelle était l'importance de faire une forme comme celle-ci et puis d'y placer votre sœur?
Donc je travaille avec Dalila depuis le début. Mes pièces sont tout le temps, la plupart du temps, formulées par le biais du duo. Et par le parcours de vie qu'on a eu, de travail, moi j'avais d'une part envie d'être seule sur le plateau, expérimenter ça. Dalila avait depuis quelques temps l'envie aussi de un solo, c'est une sorte d'autoportrait. Et c'est des questions qu'on se pose à soi, qui sont assez lourdes. Hein, des questions, qu'est-ce que je fais sur le plateau? Qu'est-ce que je communique à l'autre? Quelle est ma relation au vide, à la solitude, à l'isolement, etc. Donc on avait envie d'aller fouiller à cet endroit-là. Donc les deux solos avaient cette raison d'être. Le duo, c'est ma relation avec l'Algérie qui se poursuit, où je continue à travailler avec des danseurs en Algérie, où j'ai le sentiment que voilà, cet environnement, l'air, la lumière, l'énergie des Algériens, cette relation aussi aux danses traditionnelles qui est assez vivante là-bas, c'est une chose que j'ai envie de mener plus loin. Donc, en fait, c'était une absence de choix. J'étais sur ces trois pistes, enfin, Dalila sur son solo, moi sur mon solo, et puis ce duo en Algérie. Et Avignon avait souhaité en faire un seul programme. Donc, comme pour moi, ça avait du sens dans ma vie, c'est la relation de ces trois pièces, on les a maintenues sous forme d'un programme. Donc, elles cohabitent sur le plateau, l'une derrière l'autre, mais néanmoins, les solos, par exemple, ont déjà été interprétés séparément avec d'autres pièces, combinés avec d'autres pièces. Et on est étonné de voir d'ailleurs à chaque fois comment toutes les combinaisons fonctionnent en fait.
Donc vous écoutiez Nassera Belaza, elle présente la pièce Le Trait ce soir, jeudi 25 à 19h et vendredi 26 octobre à 20h, c'est à l'Agora de la Danse, à Montpellier.
Précédemment, les ballets se déroulaient à l'Opéra de Montpellier, qui était dans le seul avant que le Coran n'existe, et maintenant il y a donc mis en place l'Opéra Comique, et donc à partir de vendredi soir, vous pourrez donc assister aux représentations de l'Acmé. Cela aura lieu durant 5 jours. On va indiquer tout d'abord les 3 dates en nocturne, vendredi 26, mardi 30 et vendredi 2 novembre. Et puis donc deux spéciales de l'après-midi, le dimanche 28 octobre et le dimanche 4 novembre. Ce sera donc sous la baguette de Mr. Robert Toy. tous les auditeurs fervents d'opéra auront bien sûr reconnu un extrait de L'Acmé, du deuxième acte, et les plus perspicaces, évidemment, la voix de Nathalie Dessé. Pourquoi L'Acmé, pourquoi Nathalie Dessé? Tout simplement parce qu'eh bien, vendredi, après je crois une trentaine d'années, va être repris à L'Acmé, à l'Opéra Comique de Montpellier, avec de jeunes interprètes, et notamment le chef Robert Tohy. Monsieur Tohy, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous rencontrer, et avant, on va dire, surtout avant, cette vraiment générale qui peut-être vous angoisse un peu, pas du tout?
Non, pas du tout. La générale, ça, c'est ce soir. Déjà, le spectacle, ça roule bien, et moi, j'en suis ravi. Donc, pas d'angoisse, pas du tout.
On va tout de même rappeler que ce sera représenté durant 5 représentations, 4 en soirée et une en milieu d'après-midi.
Deux en milieu de l'après-midi, il y a 3 soirées et 2 dimanches.
Vous voulez bien rappeler les dates?
C'est le 26 octobre, 28, 30 octobre, et puis le 2 et le 4 novembre.
Très bien. Donc, je disais, depuis pratiquement 30 ans, pas représenté en Montpellier. Alors, c'est vrai que L'Acmé de Léo Delibes, on connaît plutôt Léo Delibes plutôt par les ballets, par Coppelia et Sylvia, mais faut-il savoir qu'il a aussi composé des opérettes, et notamment ce chef-d'œuvre que l'on considère comme tel de L'Acmé.
Oui, c'est vrai. L'Acmé, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ce serait plus souvent donné, je pense, si le rôle de L'Acmé n'était pas si exigeant. Mais c'est vraiment difficile de trouver une chanteuse qui peut assurer tous les aspects du rôle. Parce que, évidemment, dans l'air des clochettes et dans le duo, il a un côté très, très léger. Ça peut être une soprane assez légère. Mais en même temps, dans les duos avec Gérald, il faut une voix plutôt lyrique, et donc il faut une voix assez rare, c'est une voix légère lyrique. Et alors, et si on n'a pas un L'Acmé, on ne peut pas faire L'Acmé, même si c'est la musique, c'est une beauté extrême d'un bout à l'autre. Et nous, on a de la chance d'avoir une jeune chanteuse française, Sabine Devielle, qui chante, c'est une prise de rôle pour elle, elle chante ce rôle pour la première fois, mais déjà c'est clair que ça va être la prochaine L'Acmé, mais elle est déjà engagée pour chanter à Paris l'année prochaine et encore la saison après ça, donc elle est vraiment prête pour assurer ce rôle, ça va être magnifique.
On ne va pas dire son âge, ça ne serait pas poli, peut-être peut-on dire le vôtre par contre.
Oui, non, je ne peux pas dire son âge, mais
non,
le mien, oui. Oh pardon, moi j'ai 34.
Que des jeunes, on va dire.
Oui, c'est plutôt une jeune équipe, le metteur en scène aussi, c'est un collaborateur de Patrice Chéreau, qui s'appelle Vincent Huguet, c'est sa première mise en scène, et il a fait vraiment une production très belle, et je pense que ça va vraiment plaire à tout le monde.
J'ai lu notamment qu'il avait surtout voulu s'éloigner d'un style de Bollywood, dans les décors notamment, de manière à ce que cela n'empiète pas sur l'œuvre, et parce que peut-on dire que L'Acmé, c'est à la fois un opéra romantique et oriental?
Oui, c'est vrai que, en fait, c'est un beau livret, d'abord. Il y a vraiment le texte, c'est bien parfumé, il y a un côté qui est vraiment... c'est très beau. La musique, ça parle aussi aujourd'hui. Mais le côté du livret qui concerne le 19e colonialisme, tout ça, les Anglais, les soldats en Inde, ça nous parlait beaucoup moins. Je pense que ça résonne un peu moins aujourd'hui. Donc Vincent, il a choisi de, même s'il garde, ça se déroule toujours en Inde, et il a gardé les couleurs, et les parfums et tout ça. Il voulait appuyer un tout petit peu moins sur ce bouton de colonialisme et je pense que ça marche, surtout avec une équipe assez jeune, la soprane, le ténor, en général les rôles de second plan aussi. Ça va vraiment parler aux jeunes d'aujourd'hui, je pense.
Eh bien voilà, c'était donc une partie de l'interview réalisée au prix du chef Roberto Tohy, qui va donc, durant 4 soirées, présenter l'opéra L'Acmé à l'Opéra Comique. Et puis, les événements s'enchaînent à Montpellier, ils s'enchaînent dans tous les domaines, avec notamment, évidemment, tout le monde connaît le JAM maintenant pour son parcours en général beaucoup plus branché jazz. Eh bien, cette fois-ci, on va partir dans un autre domaine, on va s'extérioriser de Montpellier. On va donc se retrouver à Lunel pour le grand festival annuel, le Festival des Mandolines, avec donc, là aussi, une interview donc, d'Olivier Chabrol par Gilles Gouget.
Olivier Chabrol, bonjour.
Bonjour.
Donc on est ensemble pour parler de cette 9e édition du Festival international de mandoline de Lunel qui se déroule du 31 octobre au 3 novembre 2012. Une édition qui invite aussi, à côté de la mandoline, qui est l'instrument roi de ce festival bien évidemment, pas mal d'instruments cousins cette année.
Oui, tout à fait. Vous avez très bien dit et très bien résumé la situation. La reine du festival est toujours la mandoline et on a des artistes absolument exceptionnels qui viennent cette année, plus toujours des créations avec l'Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon. Et on se permet de donner la main et d'inviter de nombreux instruments cousins. Le festival en a toujours plus ou moins eu à chaque édition un ou deux et cette année on bascule vraiment, on fait une grosse invitation. Et je peux vous les décliner, on va avoir du bouzouki grec, alors toujours avec des artistes qui viennent de Grèce évidemment, et qui sont le dessus du panier. On a la guitare portugaise, avec Custodio Castello, qui lui a accompagné la dernière tournée d'Amalia Rodriguez. On a du type colombien, avec deux jeunes artistes qui jouent depuis l'enfance, qui sont du type colombien, et qui viennent de Colombie, de Bogota, et qui eux sont reconnus nationalement comme des artistes représentants de leur pays. On a la dame rare russe, avec Natalia Shkrepko, qui vient, elle, de Saint-Pétersbourg, avec une formation à la fois classique, traditionnelle, très très pétulante. Et on a le saz turc avec Arsène Gens, qui est une espèce de virtuose incroyable de cet instrument, qui est très très méconnu par chez nous, et qui réserve des tas de surprises musicales et culturelles formidables.
Alors la virtuosité, effectivement, on la retrouve souvent dans le festival. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire un tour sur le site mandolinedelunel.com où on peut retrouver les vidéos, notamment des apéritifs qui ont lieu, donc, comme leur nom l'indique, en début de soirée. Et le premier d'entre eux, ce sera à 18h45 ce mercredi 31 octobre avec les musiciens du festival. Ça se passe à l'espace Louis Feuillade. Voilà, pour le cocktail d'ouverture.
Le cocktail d'ouverture est l'entrée officielle en grande pompe du festival, avec des discours, etc., avec beaucoup de public en général. Et c'est aussi considéré pour nous comme le premier rendez-vous apéro, parce qu'on y boit un coup, et aussi parce que des musiciens déjà du festival font des petites démonstrations. Ceux qui sont déjà présents vont jouer chacun à leur tour un petit morceau. Et puis les rendez-vous apéro continuent ensuite le jeudi, le vendredi et le samedi, dans des bistrots différents, des bars, des cafés différents chaque soir, avec un groupe différent, jusqu'au samedi où à midi, il y a un rendez-vous apéro surprise, et en fin d'après-midi, il y a la scène ouverte où tous les festivaliers, les amateurs, ceux qui sont venus au masterclass, et souvent des artistes viennent jouer spontanément.
Voilà, les masterclass, on le rappelle, font aussi partie du menu de ce Festival international des mandolines. L'occasion pour ceux qui veulent s'y inscrire, de faire de belles rencontres. Et puis le mercredi 31, vous y faisiez allusion tout à l'heure, ce sera donc à la salle Georges Brassens où se passent tous les concerts. Ce sera le Rast Bouzouki Quartet des Grecs et puis la Domra russe de Natalia Shrebko and Style of Five, un nom qui allie anglicisme et prénom russe.
C'est surprenant. Et c'est un groupe, alors elle joue la domra qui ressemble fort à la mandoline. Il y aura aussi une domra alto, il y aura une domra basse et à la façon russe, un accordéon et un clavier qui vient orchestrer tout ça.
Voilà, puis ce jeudi 1er novembre, ce sera au bar Le Camarguet qu'aura lieu le rendez-vous apéro, toujours à 18h45 avec le Claire Luzzi Choro Quartet. On aura compris, là il s'agit du Brésil, mais c'est un combo France-Brésil.
Tout à fait, Claire Luzzi a fait du piano, elle a fait de la mandoline, elle a vécu au Brésil, et c'est une grande instrumentiste et aussi elle s'est imprégnée beaucoup de l'idiome culturel brésilien pour y avoir vécu, du choro particulièrement, qu'elle joue formidablement bien, et d'ailleurs elle a avec elle un guitariste 7 cordes qui est brésilien, Cristiano Nascimento qui l'accompagne et deux autres musiciens qui sont français. C'est pour ça que c'est effectivement un combo, comme vous l'avez dit, franco-brésilien.
Un voyage qui se poursuivra toujours ce jeudi 1er novembre à la salle Georges Brassens à 20h45. On ira du Brésil au Portugal, il y a une communauté de langues, et puis on partira en Turquie ensuite.
Voilà, avec Hasan Gens qui est un musicien phénoménal, un virtuose. Je ne sais pas si c'est pas le virtuose le plus virtuose du festival cette année. C'est inouï la façon dont il joue dans cet idiome de musique turque qu'on connaît très peu ici et qui est absolument étonnant. Enfin, c'est très beau. Et il joue donc de ce saz, qui est un instrument qui ressemble à la mandoline au sens que c'est avec des cordes doubles, que ça se joue avec un médiator, qui a aussi des trémolos, et par contre qui a un manche beaucoup plus long, qui se rapproche du bouzouki. Hein, on connaît le face-à-face grec, Grèce-Bouzouki, sauf les musiciens qui, eux, sont tous amis hein, dans la Grèce et le saz, mais l'instrument se ressemble. Le bouzouki aussi est un instrument en amande, comme ça, avec un manche très long, mais ils sont un peu différents.
Hassan Ouzeyin qui fera suite à Custodio Castello et sa guitare portugaise.
La guitare portugaise, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, elle a une forme très proche de la guitare brésilienne, que vous avez relié ça à Claire Luzzi, et c'est vrai que le bandolim qu'on connaît, par exemple, au festival avec notre cher Hamilton de Hollande, ressemble fort, le bandolim, à la guitare portugaise. La guitare portugaise est un peu plus grosse, elle va plus vers la puissance de résonance de la guitare, mais c'est vraiment une sorte de mandoline avec cordes doubles, etc., avec une tête un peu particulière. Et il faut savoir que Custodio, bon, c'est vraiment le grand artiste de cet instrument au Portugal, qui cet instrument a toujours tendance à accompagner des chanteuses. Lui-même a accompagné aux États-Unis la dernière tournée d'Amaya Rodriguez, donc qui pour le fado est la grande reine indépassable pour toujours du fado, et qui a un son. Avec Custodio, ça devient un instrument concertant à part entière, instrumental, sans chanteuse.
Et puis on reviendra en France le lendemain, vendredi 2 novembre, pour le rendez-vous apéro qui se tiendra ce coup-ci au bar Le Glacier, à 18h45, avec le Fitzgerald Superband.
Alors ça, c'est un groupe de Parisiens, tous la vingtaine et un peu plus, que des musiciens éclectiques, polyinstrumentistes, qui sont des diplômés de conservatoire, etc., et qui font un groupe à la française, mais inspiré à la fois du bluegrass, de la musique alternative, de toutes sortes de pop et de musique zazou à leur manière, et qui est un groupe qui sur scène, là, c'est dans Le Glacier, qui est un café assez grand, sont vraiment très très dynamiques, qui embarquent l'audience. Ça va presque jusqu'à danser. Enfin, c'est vraiment un groupe dynamique. Et après, bon, le vendredi soir, donc, à la salle de concert Georges Brassens, on a ce qui est devenu depuis 3 ans traditionnel au festival, la grande complicité, collaboration avec l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Cette fois-ci, on aura une vingtaine de musiciens, un ensemble à cordes de l'orchestre, dirigé par Joachim Jouss, un jeune chef d'orchestre qu'on a fait venir de Paris, pour une création. Hein, vous savez que le festival maintenant, et depuis le début d'ailleurs, mais avec la complicité de l'Orchestre National, c'est encore plus fort, on fait des créations chaque année, hein, des nouvelles œuvres dont on fait la création mondiale. Cette année, le compositeur sera Ricardo Sandoval, avec une œuvre qui s'appelle Paysages, hein, et qui l'interprétera lui en tant que soliste avec l'orchestre. Mmh. On aura aussi le Kerman Mandoline Quartet, qui est un quatuor, qui vient de se créer, et qui après un premier galop d'essai en Israël, viendra tout fraîchement faire son premier concert en Europe et pour le reste du monde, au festival, avec toutes sortes de rencontres, surprises, entre le premier soliste, le quartet qui arrive après, et... Je continue, on fait un hommage spécial à Léo Delibes, qui est un compositeur français de la fin du 19e siècle, en corrélation avec l'Orchestre Symphonique, qui lui au quorum jouera aussi du Delibes. Mm-hmm. Donc on a décidé de faire ensemble une espèce de programmation croisée où chacun à Lunel et à Montpellier, on fera honneur à cet auteur, ce compositeur français.
Et puis le Kerman Mandoline Quartet et Ricardo Sandoval donneront aussi la première mondiale de Lembranzas.
Voilà, c'est une pièce qu'on a commandée aussi spécialement pour le festival, du Cristiano Nascimento dont je vous ai parlé, qui joue dans le Claire Luzzi Show Quartet. Ce guitariste de cordes brésilien est aussi un compositeur qui commence à se faire connaître. Et il nous a écrit une pièce qui va réunir le Kerman Mandoline Quartet et Ricardo Sandoval en fin de soirée. Ça va être tout à fait épatant.
Cette 9e édition du Festival International des Mandolines se refermera le samedi 3 novembre avec un rendez-vous apéro au bar La Tauromachie. Ce sera à midi pour un concert concert surprise. Et puis à 18h45, ce sera au bar Le Pavillon avec une scène ouverte avant de se retrouver pour le concert à la salle Georges Brassens.
Voilà, avec Carlos Emmanuel Quintero Valilio, en espérant que j'ai bien prononcé, qui sont deux Colombiens, deux frangins qui viennent de Colombie, donc de Bogota, qui eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits et ensemble, et ils jouent le tiple, et l'un joue le tiple, et qui serait l'équivalent de la mandoline au point de vue tessiture, un peu plus aigu, et l'autre un peu plus le tiple, qui correspondrait plus à le tiple formule guitare. Hein, c'est des cordes triplées, c'est encore plus fort que la mandoline, en termes de doublage de notes, non, eux, ils triplent. Et ils jouent formidablement la musique colombienne, ils sont reconnus comme des artistes nationaux chez eux, bien qu'ils sont très jeunes. Et ensuite, on a le Punch Brothers et Chris Sile, Chris Sile étant actuellement le mandolinero mondial le plus en vue, venu des États-Unis, qui vient de recevoir une bourse pour 4 ans pour être aux États-Unis reconnu comme un des artistes les plus créatifs actuellement et à qui on demande de continuer ce travail de création librement en l'aidant financièrement pour qu'il continue justement à développer cet art nouveau qui crée à partir du bluegrass, qu'on appelle maintenant le newgrass. Mais lui, il porte ça avec son groupe, les Punch Brothers, encore plus loin. Ça, c'est vraiment un artiste très, très, très en vue actuellement.
Alors, c'est la 9e édition de ce festival, dont je rappelle, on peut retrouver la programmation sur mandoline au pluriel de lunel.com. Est-ce que la qualité de la programmation vous garantit année après année une augmentation de la fréquentation? Comment ça évolue? Est-ce que c'est stable?
Elle est toujours stable et légèrement en évolution chaque année. Et elle est au taquet, évidemment, à Lunel, puisqu'on a une salle qui fait 460 places. Maintenant, sur les 4 jours, on est à fond. Alors, je pense qu'il y a des projets, peut-être de nouvelles salles pour l'avenir. Et puis, bon, cette aventure avec la ville de Lunel est vraiment une très belle aventure, dans la mesure où tout est Lunel, que ce soit, est considéré comme une ville secondaire ou de province par certaines personnes. C'est quand même, en tout cas au niveau de la mandoline, le centre du monde. Et si on n'avait pas eu une ville comme ça, qui ait eu le feeling et l'intuition de reconnaître que cet instrument était porteur et pourrait faire quelque chose, un événement intéressant, on n'en serait pas là. Donc on est vraiment très content pour ça, de cette collaboration avec cette ville de Lunel.
Et les Lunellois et les Lunelloises fréquentent assidûment aussi le festival. Est-ce que c'est devenu finalement une fierté locale?
Écoutez, on trouve de tout, vous savez. Je pense que les Lunellois ont vraiment intégré, on a beaucoup de réservations maintenant au festival de Lunel, qui sont des Lunellois. On en a qui viennent plus largement du Languedoc-Roussillon, et même au-delà du Languedoc-Roussillon, et même au-delà du national, des fois. Mais les Lunellois, oui, ont maintenant... Se sont appropriés le festival. Maintenant, je ne vous cache pas que des fois, je suis surpris, après 9 ans de festival, que des fois, on puisse rencontrer encore un Lunellois qui n'est même pas au courant qu'il y a le festival chez lui. Mais ça, c'est partout pareil, ça n'a rien à voir.
Alors, 9e édition, la question est incontournable. J'imagine que pour la 10e édition, des choses un petit peu particulières se profilent.
Naturellement, vous avez bien anticipé. C'est vrai qu'on est c'est tellement un miracle, si vous voulez, qu'autour de cet instrument qui était considéré comme désuet, fragile, passé de mode, impossible à remettre en scène, maintenant, au stade où on en est, alors je ne dis pas que la bataille est gagnée, beaucoup de gens encore ignorent toujours la mandoline, c'est normal, il faut quand même des années et des années avant que ça redevienne un instrument à la hauteur et de la notoriété des autres, mais maintenant, être arrivé 9 ans à créer une émulation, un renouvellement de répertoire, des nouvelles rencontres d'artistes pendant 9 ans, ça nous porte à penser que pour la 10e édition, on va essayer de faire une grande fête et de consacrer ce festival pour encore plusieurs années, bien sûr.
Voilà, Olivier Chabrol, joint au téléphone, vous l'aurez tout de suite compris. Et puis, un des virtuoses de ce festival qui en compte de nombreux, car la mandoline, c'est petit, il faut avoir des doigts tout petits, donc on est forcément un virtuose si on en joue, enfin, en tout cas si on en joue bien. Et c'est là le joueur de saz Hassan Gens qui nous accompagne et qui sera donc dans le cadre de cette programmation de la 9e édition du Festival des Mandolines de Lunel. Thank you. voilà un extrait, non pas de ce que vous pourrez voir dans le cadre des festivals des mandolines. Là, c'était à Baglama. C'était une petite vidéo qu'on a trouvée sur Internet de ce joueur de saz. Simon.
Alors, avant que Gérard. Simon ne prenne la parole, voilà, Gérard, les priorités ne sont pas respectées. Où va-t-on, les gars?
C'est le bazar.
C'est le bazar, c'est the big bazar. Simplement, on était donc en Turquie. Et puis là, eh bien, on va carrément franchir un long périple, puisque Simon va nous parler donc de la venue vendredi soir au JAM d'un groupe écossais qui a pour nom Hidden Orchestra.
Maintenant, moi, je vais vous parler d'une expérience. Je vais vous parler d'un quartet et d'une bande d'écossais qui débarquent ce vendredi chez nous et qui, pour les amateurs de métaphores, vont à coup sûr étirer le climat ambiant. Je m'explique. Le Hidden Orchestra qui se présentera au JAM, lieu bien connu des amoureux de découvertes musicales, sans la pluie, le vent, les nuits qui tombent à 5 heures, l'automne, l'hiver si vous préférez. Quatre Écossais donc portés par un certain Joe Hutchison qui étire un jazz électronique pouvant rappeler les émulsions de DJ Shadow ou du Cinematic Orchestra. Organique également, le Hidden Orchestra propose à l'auditeur, sur disque comme en live, une forêt d'espace et de sons. Les instruments, violons, batteries, soufflants, sont portés par une maîtrise de l'environnement électronique rare, moite, où les éléments se déchaînent au fur et à mesure des pistes. C'était déjà le cas avec Nightwalk, sorti en 2010 sur le label Truthout, et qui, comme son nom l'indique, est une réflexion quasiment infinie, disons-nous, d'une nuit de errance. Leur dernier disque en date, pardon, Archipelago, paru sur ce même label et du même acabit. Dense, protéiforme, il nous offre une bande-son idéale sous un ciel écossais, un onirisme musical dont on aurait tort de se priver. Du jazz, oui, mais pas seulement. Le Hidden Orchestra aspire, comme tant d'autres, à décloisonner, à aimer, à se lover sur du minéral et à exploser les cases. Le climat sera tendu au JAM ce vendredi, donc le Hidden Orchestra pourrait bien clouer quelques personnes sur place, à commencer par moi, pressé d'assister depuis les premières loges à la tempête depuis 2 ans. C'est ce vendredi donc, à partir de 20h30 au JAM, 100 rue Ferdinand de Lesseps, tram ligne 4, arrêt Saint-Martin.
Simon, ça c'est fabuleux.
Eh ben oui.
Et c'est fabuleux et à mon avis, ça mérite quand même un deuxième titre.
Un deuxième titre sur lequel on va se quitter. Un titre tiré de leur dernier album Archipelago, dont j'évoquais le nom tout de suite. Un titre qui s'appelle Force Wall et je crois qu'on va quitter ce premier épisode de Ma Culture sur ta commode sur Divergence FM là-dessus, les gars.
Et on vous précise que le numéro, là c'était le numéro 0, le numéro 1, ça aura lieu dans 365 jours.
Et oui, puisque vont reprendre les émissions, on va le dire, de Divergence Numérique je crois, non pas la semaine prochaine, car c'est férié, mais ce sera donc pour le 8 novembre.
Ce sera pour le 8 novembre. Par contre, il y aura peut-être quand même la revue de presse de l'April, car les gens de l'April sont infatigables et n'aiment pas les jours fériés. On se quitte donc avec un extrait du dernier album en date du Hidden Orchestra Archipelago. Et c'est le 8e extrait que l'on écoute qui s'appelle Fourth Wall, le 4e mur. Rien à voir avec les 9 cercles, mais allez savoir. Salut à tous. Salut à toutes.
Salut Gérard.
Salut, salut. On va peut-être, avant qu'on ne se quitte définitivement, peut-être rappeler un peu tout ce dont on a parlé. Simon, toi, tu nous as parlé donc de l'expo.
L'exposition Halle, Salamèque et Small à voir jusqu'à fin décembre, 2 rue Marcel Serre, dans une maison près des Arceaux. De toute façon, tous les liens, etc., seront accessibles.
Sont déjà sur divergence-fm.org.
Mais voilà, tout simplement, divergence-fm.org, on a tout ça.
Vincent. Moi, j'ai parlé de la danse, donc Nasser Abelaza et puis sa sœur et puis deux autres danseurs. C'est ce soir, jeudi 25 à 19h et vendredi 26 octobre à 20h à l'Agora de la danse.
Quant à moi, je vous ai parlé donc de l'opéra L'Acmé à l'opéra comique de Montpellier, donc place de la Comédie et non pas au Corum. Et puis Gilles, lui, dans sa grande magnificence, lui nous a fait deux articles.
Voilà, Dominique, à ce soir, c'est complet, donc passez par la case Marché Noir sans toucher les 10 000 euros. Et puis évidemment, le Festival international de mandoline de Lunel qui démarre mercredi.
Voilà, on se quitte sur un titre du Hidden Orchestra qui est sur la scène du Jam ce vendredi à partir de 20h30. Salut à tous.
Salut à tous.
Et à toutes.
Il n'y a pas que de la soul sur Divergence FM.
93.9